Et nous accueillons Laetitia au 3921. Bonsoir Laetitia.
Oui, bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Je suis très émue de vous parler.
Ah bon?
Oui.
Bon, ça va aller, vous allez voir.
Ça fait quelque temps que je me posais la question de savoir si j'allais vous appeler ou pas. Voilà, ça fait pile un an, parce que j'ai eu un accident de moto le 20 octobre dernier. Avec ma fille dessus.
Oui.
On nous a coupé en fait la route, tout simplement. Heureusement, ma fille a réussi à s'éjecter et bon, bah, c'est moi qui ai encaissé l'accident de plein fouet.
Oui.
Bon,
comment ça s'est passé exactement en fait?
Bah, en fait, j'étais sur une route principale, il y avait un CD de passage sur la droite.
Oui.
Et la personne était au CD de passage et ben, je pense qu'elle ne m'a pas vue.
Oui.
Elle n'a pas mis dans son état d'esprit qu'il y avait une moto qui pouvait arriver, elle ne voyait que voiture. Et d'un seul coup, elle s'est engagée. En fait, elle a voulu couper la route pour tourner en fait d'un côté. Et ben, moi, j'ai pas eu le choix. En fait, ben, je pouvais rien faire, quoi.
Oui.
C'est-à-dire que quand elle a accéléré, c'était trop tard. Je savais que l'accident allait arriver.
D'accord. Et
voilà.
Au final, donc vous m'avez dit que vous aviez pris ça de plein fouet. Vous avez été gravement blessé.
Alors, j'ai eu la chance de... j'ai été blessée, oui, pas gravement. Je pense que, voilà, comme j'étais pompier volontaire à l'époque, je faisais beaucoup de sport, donc ça m'a certainement beaucoup aidé. Bon, par contre, j'ai encaissé le coup, enfin, le choc vraiment de façon frontale. Donc, ça veut dire que bah, tout s'est réveillé. En fait, une fois que toutes les assurances étaient faites, que voilà, enfin, les torts étaient vraiment à 100% pour lui et qu'on m'a dit, bah, maintenant vous pouvez vous reposer. En fait, c'est là où toutes les pathologies sont sorties. Le corps, comme bizarrement, en fait, pendant 48 heures, a pris sur lui et
oui.
a fait ce qu'il devait faire.
Mmh.
Et en fait, bon, voilà, j'ai eu des pathologies, bon, qui en soi sont pas graves aujourd'hui par rapport à ce que je suis en train de vivre au jour d'aujourd'hui. Et c'est, en fait, je me dis que c'est rien du tout. Bon, je me suis relevée de cet accident, même si ça a été pour moi un choc psychologique très dur, parce que j'ai l'impression qu'on m'a mis un stop en fait dans ma vie. Cette voiture qui me coupe la route, c'est comme si en fait elle m'avait mis un stop, parce que j'étais licenciée en plus par rapport à ça suite à mon travail. Donc j'ai tout perdu en fait.
Oui.
En plus, cette personne-là qui soi-disant se disait de bonne foi, finalement a fait traîner les choses parce qu'elle savait qu'elle était complètement en tort. Donc ça a duré des mois avant que je puisse être indemnisée un minimum au niveau corporel. Parce que j'ai quand même été brûlée au troisième degré, enfin j'ai quand même eu des brûlures, enfin voilà.
Mmh.
Bon, après, voilà, ma fille va bien, donc ça c'est le plus important, elle a rien eu. Bon, elle a eu des bleus, donc on a fait constater, mais en soi, voilà, elle est prête à remonter sur ma moto, il n'y a pas de problème là-dessus, mais voilà, donc ça s'est passé en octobre. De suite à ça, en fait, bon, j'ai pas demandé d'aide à personne parce que bah, je pensais pouvoir être assez forte pour pouvoir le vivre seule. Et en fait, je me suis un petit peu, on va dire, un peu le syndrome de l'enfoncement, c'est-à-dire que j'ai arrêté de manger, en fait, j'ai arrêté de m'alimenter. Parce que comme on m'avait coupé la route, j'avais perdu mon travail, je me disais, mais en fait, tu ne mérites pas de vivre, on t'a fait ça, et en fait, pourquoi est-ce que tu mériterais de vivre plus? Parce que quelque part, tout ce qu'on t'entreprend, ben, on te met toujours des bâtons voilà, sur la route. Et celui-ci, c'est un gros obstacle. Alors, je suis cavalière, hein, je suis ministre d'équitation.
Oui.
Donc, je sais très bien qu'il faut toujours voilà, dépasser l'obstacle et passer par au-dessus. Mais là, ça commence à faire beaucoup. Donc, j'ai perdu 20 kilos en l'espace de 2 mois. Et au moment de Noël, où il a fallu que je retrouve ma famille à Paris, j'avais prévenu mes parents que physiquement, j'étais... qu'ils allaient certainement pas me reconnaître, et c'est ce qui s'est passé en fait. Mes parents ont été, ma mère a failli tomber dans les pommes quand elle m'a vue voilà, Noël, et puis c'était chez ma sœur, pardon, c'est ma sœur qui a accueilli la famille, et il y avait mon grand frère notamment qui était là, et ils avaient dans l'idée de m'aider, voilà, donc ça partait plutôt d'un bon sentiment. Donc, j'ai eu toute confiance en eux. Je me suis complètement livrée à eux sur tout ce que j'avais vécu pendant cette année. La douleur physique, le fait de perdre 20 kilos, j'étais un squelette ambulant, je ne tenais pas debout. Il fallait à côté de ça que je gère mes 3 enfants, que j'ai géré toute seule malgré tout, parce que j'ai un papa qui est absent. Et donc, voilà, le 24 au soir, ça avait beaucoup bu de leur côté. L'alcool aujourd'hui, pour moi, ça devient vraiment quelque chose que je ne supporte pas. Mais il m'avait mis en confiance. Et le 25, quand il a fallu que je reparte sur Aix-en-Provence, Là, en fait, mon frère et ma sœur se sont levés de table et ils m'ont interdit, en fait, de repartir sur Aix-en-Provence, où là, en fait, ils m'ont pris toutes mes affaires, c'est-à-dire qu'ils m'ont pris mon sac à main, mon téléphone, ma carte bleue. J'avais prévenu un taxi. En fait, mon frère est allé payer le taxi, il a renvoyé le taxi. Mon père était là, et il a assisté à la scène, mais d'une violence extrême, c'est-à-dire que mon frère était complètement incontrôlable, ingérable, sous l'effet de l'alcool. Et mon père a essayé de s'interposer, mon père qui a 73 ans et qui est général dans l'armée, donc il a quand même toujours une droiture et qui nous a toujours éduqués, enfin voilà, avec le respect de la famille et de nos parents. En fait, mon frère ne s'est pas gêné de le pousser contre le mur et de lui dire « Maintenant, toi, tu sors de chez moi, je ne veux plus te voir et Laetitia, on va la gérer. » Et donc, voilà. Et là, le calvaire a commencé. Donc, mon père m'a dit en pleurs. Mon père était en pleurs. Moi, j'étais en pleurs. Je suppliais de le ramener avec lui là où ils habitaient, eux. Et mon père m'a dit « Écoute, si je le fais, je pense que ton frère va devenir violent aussi avec moi et ça va terminer en catastrophe. » Donc, mon père est parti, mais il savait très bien que j'étais en danger. Et en fait, mon frère n'a rien trouvé de mieux que de me dire « Voilà, t'as perdu 20 kilos, on ne peut pas te laisser comme ça. Mais sous l'effet de l'alcool, attention, je répète bien parce que c'est très important. Hein, c'est vraiment un facteur qui est très important. Donc, on va t'amener dans des hôpitaux psy et on va te faire interner. » Voilà. Donc, ils m'ont trimballé le 5 au soir dans 3 hôpitaux différents où j'ai dû raconter mon histoire à chaque fois.
Mais et où les psychiatres... Où ils étaient avinés comme ça ils avaient bu le soir où ils vous ont emmené à l'hôpital comme ça?
Ils avaient bu, oui. En fait, ils ont bu, c'est bien simple, ils ont commencé le 24 sur les coups de 16-17 heures et ils ont terminé le 25 à 4 heures du matin.
Et j'ai envie de vous poser une question. Vous ne m'avez pas dit quel âge vous aviez, Gaëlle?
J'ai 43 ans.
D'accord. Pourquoi avoir suivi votre père et votre frère? Pourquoi ne pas avoir vous être opposé, ne pas s'être opposé à cela?
Alors, mon père ne voulait pas que je parte avec mon frère. Mon père, en fait, lui, il a été jeté en fait, dehors de chez ma sœur par mon frère. Oui. Donc, il a été obligé de rentrer chez lui. Et moi, en fait, je me suis opposée. Mais en m'opposant, en fait, mon frère est devenu violent.
D'accord.
Donc du coup, en fait, pour ma protection, et mes enfants étaient là, donc mes enfants étaient victimes, enfin, ont vu toute la scène. Donc imaginez-vous votre mère se faire maltraiter comme ça par quelqu'un de sa famille. Enfin, c'est juste terrible. Et donc il y a un moment pour éviter, même pour protéger mes enfants, j'ai dit à mon frère, j'ai dit écoute, de toute façon je vais te suivre, mais je pense que je connais les réponses des hôpitaux. Donc, ils m'ont amené dans 3 hôpitaux différents. Et les 3 hôpitaux leur ont dit clairement, il est hors de question qu'on l'interne parce que votre sœur est complètement cohérente et sa perte de poids est complètement compréhensive par rapport à l'accident qu'elle a vécu, sachant qu'en plus, il y avait sa fille avec elle et que c'est,
ah oui.
Voilà, que c'est quelque chose qui m'a traumatisée
oui,
en fait, sur le moment.
Qui vous a fait sans doute culpabiliser un maximum, je suppose.
Je suis passée par toutes les étapes, en fait. Oui, bien sûr, quand je vois ma fille encore aujourd'hui, quand je pense à cet accident, et encore quand on a eu l'accident, elle est venue me voir tout de suite, moi j'étais par terre allongée. Elle me dit Maman, t'inquiète, on montera sur la moto. Hein. Elle a 16 ans, elle est grande, hein, donc, mais heureusement, elle n'a pas été abîmée, mais elle m'a vue en fait par terre, sous la voiture, avec la moto, donc je pense que c'est quand même des choses qui marquent les enfants. Et à Noël, j'espérais trouver un peu de réconfort auprès de ma famille.
Oui.
Et voilà. Et en fait, le 25, l'alcool aidant, voilà. Donc j'ai fait la tournée des hôpitaux le 25 au soir, du côté de Fontainebleau, donc c'était génial. Et quand ils ont vu que personne ne voulait de moi, mon frère en fait m'a remis dans la voiture. Il y avait ma sœur également qui était là. Et là, pendant 20 minutes sur le trajet du retour, heureusement, j'ai eu présence d'esprit d'enregistrer en fait, ce qu'il était en train de me dire. Je me suis fait insulter de tous les noms, comme quoi j'étais une maman qui était complètement... moi qui me suis toujours occupée de mes enfants toute seule, je les ai élevés toute seule, je devenais la pire des mères et je devenais vraiment un paillasson sur lequel... j'étais plus rien en fait. On m'avait tout enlevé. On m'avait tout pris. J'avais plus rien. J'avais plus de téléphone. J'avais plus de carte bleue. J'avais plus de vêtements. J'avais plus rien. Et quand on est rentré, du coup, j'ai pas eu le choix que de rentrer chez ma sœur. Ça a duré encore au moins bien une demi-heure, où là, mon frère m'en a remis encore une couche en disant « Oui, ouais, on est allé dans les hôpitaux, tu nous as fait passer pour des menteurs, personne n'a voulu de toi. » Mais j'ai dit « Mais Stéphane, mais tu comprends pas que je suis pas malade psychologiquement, j'ai juste besoin d'aide parce que j'ai eu un accident. »
Vous avez eu un accident et ça n'était pas de votre faute.
Voilà.
C'est quoi en fait, ces relations que vous avez avec... ça allait avant qu'il arrive tout ça,
oui.
Les relations que vous aviez avec votre frère, votre père?
Oui. Oh. Oui, alors mon père a pris ma défense. Hein. Mon père a tout de suite dit à mon frère qu'il faisait n'importe quoi et qu'il pourrait le regretter. Donc mon père, là-dessus, il a été vraiment très très bien. Mais il ne voulait pas s'opposer à mon frère, parce que mon frère était dans un état de violence et sous l'effet de l'alcool.
Il avait bu.
Oui, il avait bu.
Mais vous savez, à partir du moment où des gens ont bu, ils perdent beaucoup de leur libre arbitre, ils perdent la boule. Les émotions sont complètement déformées. Et évidemment que vous n'auriez pas dû les suivre et qu'à l'hôpital, ils ont dû remarquer qu'ils avaient bu, c'est certain.
Oui. Après, voilà, moi, sur le retour des trois hôpitaux où ils m'ont amené, j'ai espéré rencontrer une patrouille de gendarmerie qui fasse un test d'alcoolémie. Je m'étais dit que c'était ma seule solution pour qu'au moins le 25 au soir, je puisse mettre en lieu sûr pour leur expliquer ce qui m'arrivait. Oui. Malheureusement, on n'a rencontré personne sur la route. Donc, j'étais obligée de rentrer chez ma sœur. Où là, voilà, donc comme je vous disais, ils m'ont remis de nouveau dans une espèce de petit salon. C'est des maisons en meulière, vous savez, des maisons un petit peu à l'ancienne qu'on voit en région parisienne avec des étages. C'est des maisons à trois étages, donc il y a plusieurs petites pièces. Et là, ils m'ont enfermée dans le salon. Donc pendant encore une demi-heure, on a fini par m'achever, je crois, définitivement.
Mais je ne comprends pas, c'était quoi ces petites maisons en fait
C'était la maison de ma sœur, en fait.
Ah oui, d'accord.
Là où ma sœur, ouais. Okay. Parce que ma sœur, en fait, avait réuni la famille pour Noël, en fait, à la base.
D'accord. Et voilà, ça se passe où, dans quelle région, tout ça?
À Fontainebleau.
Fontainebleau, d'accord.
Voilà.
Et vous dites les relations, donc, avec votre famille sont plutôt normales, d'habitude?
Bah, avant, oui, elles étaient normales, ouais. Jusqu'à ce qu'arrive ça, en fait... Moi, j'ai toujours été la petite sœur de mon frère. Ça a toujours été, il m'a toujours considérée comme ça. Enfin, il a toujours voulu me protéger. Et là, je ne sais pas pourquoi.
Alors, écoutez, est-ce qu'on peut mettre ça sur le dos de l'alcool? Vous savez, par moment, à un moment X de sa semaine ou de son mois, avant, là, c'était quand même vers le 24-25 octobre, vous m'avez dit. Donc, peut-être que votre frère...
C'est 25 décembre, c'est pile au moment de Noël.
D'accord, bah peut-être votre frère était fatigué, peut-être qu'il était dans un état de stress particulier. En tout cas, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais l'alcool, visiblement, lui a fait complètement péter les plombs pour qu'il soit violent.
On m'a parlé de bouffée délirante.
Non, il ne faut peut-être pas pousser bouffée délirante. Il avait beaucoup bu, visiblement, c'est ce que vous m'avez dit. Ils avaient commencé la veille. Je pense qu'il avait fatigue plus alcool sur le... Le long terme, c'est-à-dire presque 48 heures d'alcool. Je pense que vous pouvez faire n'importe quoi quand vous consommez de l'alcool comme ça pendant 48 heures et que vous êtes fatigué. Il n'avait jamais fait ça avant, votre frère?
Alors non, pas vis-à-vis de moi. Par contre, vis-à-vis de ses enfants, il avait déjà eu des actes de violence vis-à-vis de ses propres enfants, en fait.
Ah oui.
Voilà. Donc il a quand même... Et toujours sous l'effet de l'alcool, en fait.
Parce que si vous voulez, une bouffée délirante... Peut venir avec de l'alcool, mais si vous voulez une bouffée délirante, c'est vraiment un comportement désordonné. Vous voyez, ça peut être des hallucinations, en fait, ça peut être... Est-ce que ça se rapportait à ça, ce que vous avez vu ce soir-là?
Écoutez, la suite, en fait, voilà, en fait, la suite de tout ça, c'est que... Donc, comme je vous disais, j'avais plus rien. À un moment, ma sœur lui a dit, écoute, maintenant, arrête, elle a compris. Donc, rends-lui au moins son sac à main. Parce que j'avais plus rien, j'avais plus de contact avec l'extérieur, donc j'étais vraiment bloquée chez eux. Et en fait, quand j'ai pu récupérer mon sac à main, donc c'était le 25 décembre de l'année dernière, il neigeait d'ailleurs à Fontainebleau, et en fait ma seule réaction, ça a été de sortir de la maison et de fuir parce que je savais que j'étais en danger. Donc je me suis retrouvée en fait dehors à 23h avec mon sac à main, juste un petit gilet, caché derrière une voiture. Alors, j'ai appelé mes parents pour leur dire voilà, je suis cachée derrière une voiture, je ne sais pas où je suis, j'ai peur, Stéphane est complètement fou, Pardon, excusez-moi, j'ai dit non, mon frère, c'était pas le but. Voilà, il est complètement fou. Il veut me faire interner. Demain, il veut me ramener de nouveau dans les hôpitaux. Moi, je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer sur Aix-en-Provence.
Votre fille bon, était bref. Où à ce moment-là, chez vos parents ?
Eh ben, mes enfants étaient chez ma sœur également.
D'accord. Bon.
Donc, mais ils étaient avec les cousins, cousines. Donc, quelque part, si vous voulez, bon, ils étaient, c'était, ils voyaient ce qui se passait, mais avec le fait d'être avec les cousins, cousines, ils étaient un peu dans les chambres enfermés. Donc, ils ont tout vu. Enfin, d'ailleurs, mes enfants aujourd'hui veulent plus voir mon frère et ma sœur. Enfin, c'est terminé. Ils ont, voilà, ils ont vu le mal qu'ils m'ont fait.
Quel âge ont-ils, vos enfants ?
Ils ont 16, 17 et 18.
Vous m'étonnez qu'ils ne veulent plus voir ces gens-là. C'est tout à fait normal. Imaginez des ados qui connaissent leur mère et on a voulu l'enfermer.
Surtout que je me suis occupée de mes enfants toujours toute seule. J'ai toujours assumé toujours alors, toute seule mes enfants.
Laetitia, ne culpabilisez pas, ne vous en voulez pas. Tout ce qui s'est passé là est indépendant de votre volonté. Vous comprenez ? Il faut vous dire que vous ne pouviez avoir aucun contrôle à ce moment-là sur l'état de votre frère, sur sa manière d'agir. Je pense que vous avez même eu peur du comportement
oui,
de votre frère.
Parce qu'il m'a séquestré après. En fait, mon père l'a appelé
il est fou, votre frère.
Pour lui dire, voilà, il faut que tu baisses d'un ton parce que ta sœur ne veut plus rentrer. Elle a peur. Elle est terrorisée. Il faut savoir qu'entre-temps, j'avais réussi à avoir la police au téléphone.
Oui.
Et la police m'a dit, bah, écoutez, tant qu'il n'y a pas de violence proprement dit, on ne peut pas intervenir pour l'instant. Par contre, on sait que vous êtes en danger, donc on va rester en contact avec vous et on va vous appeler toutes les heures pour savoir comment évolue la situation.
D'accord, le commissariat de Fontainebleau.
Voilà, le commissariat de Fontainebleau. Donc du coup, suite à ça, je suis rentrée chez ma sœur. Et là, en fait, mon frère m'a dit, en fait, on ne veut même plus te voir. Donc maintenant, tu montes dans le grenier, tu vas te mettre là-haut.
Non, mais
et puis tu vas attendre qu'on te donne des instructions et qu'on te dise les choses.
Tout ça parce que vous aviez perdu du poids depuis votre accident.
Oui,
mais il est, absolument. Laetitia, vous êtes avec moi ce soir.
Oui.
Vous m'avez expliqué ce qui s'est passé. Si je vous demande là, si vous considérez que votre frère a eu un comportement normal ce soir-là, qu'est-ce que vous en pensez ?
Non, parce que la police et la gendarmerie, ce que j'ai eu les deux, m'ont dit que j'étais séquestrée par mon frère
bien sûr.
Et par ma sœur, et que c'était une séquestration, et que je pouvais porter plainte contre eux.
Mais vous n'allez pas porter plainte du coup, ou qu'allez-vous faire ?
Non, je ne le fais pas pour mes parents, parce que je ne veux pas gâcher la...
Vous avez raison.
Mes parents, ça sont 13 ans et je ne veux pas gâcher
Par contre, moi, je vous engage vraiment à marquer le coup, Laetitia, par rapport à ce qui s'est passé. C'est-à-dire que pendant un moment, vous dites à vos parents, écoutez, papa, maman, si vous avez envie qu'on se voit, vous descendez me voir à Aix-en-Provence. Ils ont les moyens, vos parents, de descendre à Aix-en-Provence, venir vous voir et voir les petits ? Enfin, les petits qui sont grands. Hein. Bon.
Oui.
Voilà, pour l'instant, je pense qu'il est, pour vous, c'est vital que vous ne croisiez plus ces gens-là, votre frère et votre sœur aussi. Vous me dites tout là, Laetitia.
Ah ben oui, non, mais attendez, c'est-à-dire qu'en fait, donc j'étais en contact avec la police donc de Melun. Ou de Fontainebleau, je ne sais plus, parce que soit c'est la gendarmerie ou soit c'est la police. Quand la gendarmerie ferme, en fait, ça bascule entre Melun et Fontainebleau. Donc, je ne sais plus lequel j'avais au téléphone. Je suis tellement pétrifiée que simplement le fait d'avoir les forces de police au téléphone, c'était voilà ce qui comptait le plus pour moi. Donc, en fait, toutes les heures, il m'appelait pour que je trouve une solution pour pouvoir, en fait, m'enfuir de chez mon frère et de ma sœur. C'était la seule solution, en fait, que je puisse... dans l'immédiat pour pouvoir me sauver entre guillemets. Donc comme je suis une ancienne hôtesse de l'air, j'ai réussi à prendre un billet d'avion tôt le matin et moi je les avais entendus tout le soir. Alors moi j'étais enfermée dans le grenier donc j'ai rien eu, pas une bouteille d'eau, enfin rien du tout.
C'est fou. Enfin vous
et moi je les entendais en dessous qui continuait à rigoler et qui picolait, qui continuait à boire de l'alcool. Et en fait c'est mon fils. Mon deuxième garçon, qui a toujours été très proche de moi,
qui me dit, tiens maman, je te ramène ton sac à main, comme ça tu pourras prendre tout ce qu'il faut, tes billets d'avion. Il m'a dit, tu nous laisses ici pour l'instant et tu verras ce que tu pourras faire pour nous après. Donc en fait, j'ai sauvé ma peau déjà moi. Donc j'ai réussi à trouver un billet d'avion. J'ai réussi à trouver un taxi qui a tourné jusqu'à 4 heures. Normalement, il tournait jusqu'à 4 heures du matin sur Paris. Et que j'ai expliqué ma situation. Et il m'a dit, écoutez, à 6 heures, je suis là. Et à 6 heures, je vous amène à l'aéroport d'Orly. Et comme ça, vous pourrez prendre votre avion et vous serez en sécurité.
D'accord. Et c'est ce qui s'est passé ?
Et bien, à 6 heures, il m'a appelé 3 fois. Malheureusement, je m'étais endormie.
Oui.
Et à 6h05, inconsciemment, mon cerveau s'est réveillé. Donc là, je l'ai rappelé.
Mm-hmm.
Et en fait, il m'a dit, bah, c'est bon, j'arrive et je viens vous chercher. Et alors là, ça a été juste... il a fallu que je sorte de ce grenier.
Oui.
En plus, c'était des escaliers en bois. Donc, j'avais 3 étages à descendre avec des escaliers en bois. J'avais 4 chiens qui m'attendaient en bas. Ils avaient tout barricadé. Ils avaient fermé les portes à clé. Ils avaient fermé les fenêtres à clé, les volets à clé. Et en fait, comme je suis pompier, la seule chose qui m'est donnée d'instinct, c'est de me dire l'endroit qu'on ne peut pas fermer complètement, c'est la cuisine. Parce que si, en cas de problème, il faut toujours qu'on puisse aérer le plus rapidement possible.
Oui.
Et j'ai réussi à trouver en fait un volet ouvert qui pouvait pas fermer, verrouillé.
Mmh.
Et en fait, j'ai sauté de 2 mètres de haut, parce que comme c'était une maison en pente, j'ai réussi à sauter de 2 mètres de haut par rapport à la cuisine de la maison. Mais j'étais sans chaussures, sans rien, parce que je voulais pas faire de bruit, donc j'avais tout jeté à travers la fenêtre de la cuisine. J'avais jeté mon sac à dos à 6h du matin. J'ai remis mes bottes. Heureusement, ils n'avaient pas fermé le portillon. Et là, mon intuition a été de me dire, bah, c'était une rue en descente, je me suis dit, si je vais vers le bas, je vais aller vers la campagne. Si je vais vers le haut, je vais certainement retourner vers la terre. Je ne connaissais pas Fontainebleau.
Oui, oui.
Et en fait, j'ai couru jusqu'à temps de trouver un bar tabac qui était ouvert. Et je leur ai expliqué, voilà, je leur ai dit, écoutez, je suis en contact avec la police. Ils veulent que je sois à l'abri. Et par chance, c'est des gens qui venaient d'Aix-en-Provence qui étaient là pour remplacer leur fille qui était partie en vacances.
Non, super.
Donc, et du coup, ils m'ont caché dans l'arrière-boutique jusqu'à temps que le taxi arrive.
Mais...
Et quand je suis rentrée dans le taxi,
oui.
Bon, bah, là, je savais que bah, en fait, j'étais sauvée. Quoi.
Vous n'en avez jamais parlé à personne de ce qui s'est passé ce soir-là, me dit Florian.
Non.
Est-ce que votre frère et votre sœur avaient déjà eu un comportement comme celui-ci avec vous ?
Non, mais ma sœur, elle a toujours été très jalouse de moi.
Mmh.
Et mon frère, il a toujours... Moi, j'ai divorcé très jeune.
Oui.
J'ai divorcé, j'avais 30 ans, parce que j'étais avec un mari qui était plutôt dans la violence avec moi. Il avait 18 ans de plus que moi, donc il avait une emprise sur moi qui était... Et comme je suis une femme de caractère et que je me laisse quand même normalement pas faire, j'ai pris mes 3 enfants sous le bras et je suis partie avec rien. Et j'ai recommencé ma vie à 30 ans avec mes 3 enfants. Voilà. Et du coup, ils ont toujours eu l'impression, en fait, que, je sais pas, que peut-être que, comme je n'avais pas une vie normale, c'est-à-dire que je n'étais pas mariée, que j'avais divorcé, que je n'étais pas dans les clous comme tout le monde, peut-être que j'étais le vilain petit canard de la famille, en fait.
Oui.
C'est un peu comme ça que je vois les choses aujourd'hui, comme si j'étais un peu un boulet, en fait, pour eux.
Oui, mais bon, ce qu'ils pensent, eux, ne doit pas aujourd'hui vous faire quoi que ce soit. Moi, aujourd'hui, ce qui s'est passé il y a un an maintenant, il faut vous débarrasser de tout ça parce que vous n'y êtes pour rien, absolument pour rien. Et malheureusement, ces gens-là vont, si vous les fréquentez à nouveau, ils recommenceront à faire ce genre de choses. Ils recommenceront à. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ah oui, de toute façon, pour moi, c'est clair. Je veux plus les voir. Enfin, c'est. Mais là, bon là, et comme j'ai dit à Florian, bon, malheureusement, j'ai rebondi quand même malgré tout derrière. J'ai trouvé un travail en tant que monitrice d'équitation dans le Var, donc j'ai encore mis de. En fait, plus je m'éloignais d'eux physiquement, et plus je me sentais en sécurité.
Bien sûr, bah vous.
Et là, malheureusement, j'ai eu un accident.
Je vous entends pas, je vous perds là en fait, vous avez dû vous éloigner de...
Non, je bouge pas, c'est juste mon réseau qui est pas très très bon.
D'accord.
Vous me dites...
Et voilà. Je n'ai pas compris, vous avez trouvé donc...
J'ai trouvé un travail voilà, en tant que monitrice d'équitation dans le Var.
Oui.
Et en fait le 25 août, j'ai eu un accident J'ai un cheval en fait qui m'a jeté en fait le postérieur dans la jambe. Il voulait toucher en fait la jument que je montais. Sauf qu'en fait, j'ai une fracture complète de la jambe. Et du coup, aujourd'hui, je me retrouve en plus complètement handicapée. J'ai eu trois opérations. J'ai une infection staphylocoque à l'hôpital. Et voilà, donc tout ça fait que...
Tout ça, c'est accumulé. Bon,
voilà,
écoutez,
ça,
je vais être obligé de vous quitter dans peu de temps, donc, parce qu'il y a beaucoup de monde qui appelle ce soir. Premier conseil, pour l'instant, vous mettez de la distance entre vous et votre sœur et votre frère. Le premier objectif pour vous, c'est vos enfants, comme ça l'est depuis longtemps. Ensuite, c'est vous, Laetitia. Et j'ai envie de dire que c'est kiff-kiff, hein, parce qu'il faut que vous fassiez attention à vous. Il faut que vous remontiez la pente, que ça aille mieux pour vous, parce que ça ira mieux pour vos enfants, parce que ça doit les inquiéter aussi. Ils sont en âge d'être inquiets vraiment pour vous. Vous voyez, ce sont des adolescents. Vous avez une petite famille, là. Vous êtes à Aix, profitez-en. Vous retrouverez du travail. Vous avez su rebondir après le boulot. C'est le boulot d'hôtesse de l'air que vous avez perdu ?
Non, j'étais hôtesse de l'air. Après, je me suis arrêtée pour mes enfants pour m'occuper d'eux.
Oui.
Et là, maintenant, je suis monitrice d'équitation.
D'accord. Bon, vous retrouvez du travail. Vous êtes de la débrouille. Et ce qui est important, le premier objectif dans les semaines qui viennent, hein, les mois qui viennent, c'est de vous remettre sur pied et de vous remettre bien dans la tête. Donc, occupez-vous de vous, occupez-vous de vos enfants, et puis oui. Mettez de la distance entre ce frère et sa sœur avec lesquels vous ne devez plus avoir aucun contact. D'accord ? Quitte, d'accord. Bien évidemment, à pas froisser, mais faire de la peine un peu à vos parents, mais soyez ferme là-dessus. Vous leur expliquez que ce que vous avez vécu est extrêmement traumatisant, que ça vous a traumatisé et que vous ne voulez plus jamais vivre ce genre de choses, et que vous ne pouvez plus, en tout cas pour l'instant, voir ce frère et cette sœur. Et que s'ils veulent vous voir, s'ils veulent voir leurs petits-enfants, eh bien, Aix, hein, c'est agréable, ils peuvent venir descendre et que voilà, vous pourrez passer des moments ensemble et des moments calmes. Ce qui vous est arrivé n'est absolument pas de votre faute. Vous avez parfois, la vie, c'est comme ça. Hein. On enchaîne les galères, vous voyez ?
Voilà, je vous dis quelque chose, c'est que là, je suis en rééducation au CERS à Fréjus, donc qui est un centre assez connu pour les sportifs.
Avec des sportifs de haut niveau, ouais.
Et en fait, on m'a mis à disposition une rencontre avec une psy, et en fait, son diagnostic est un syndrome de stress post-traumatique que je traîne en fait depuis Noël.
Voilà. Bon, mais vous m'étonnez. Vous voyez, ça va dans le sens de ce que je vous ai dit ce soir. Donc, continuez à voir cette psy aussi, échanger avec elle. Et puis, vous allez voir, les choses vont s'améliorer petit à petit. Et puis, redonnez des nouvelles, hein, d'ici 15 jours, 3 semaines. Vous voulez bien ?
D'accord. Hein ? D'accord, avec plaisir.
Vous savez où nous trouver, de toute façon. Même si vous avez un coup de mou, hein, vous nous appelez. D'accord ?
D'accord,
et puis, on échange.
Bien parce que... Hein ? D'accord, ok. Bah, d'accord. Écoutez, je vous remercie. Vraiment, merci infiniment. Merci
on
à toute l'équipe et merci à Florian et puis merci Olivier de m'avoir écouté parce que moi je vous adore et je vous suis tout le temps voilà, j'ai osé décrocher mon téléphone.
Vous avez très bien fait Laetitia et puis là maintenant vous connaissez le chemin donc je suis là et puis nous sommes tous là, d'accord ?
Merci Olivier.
Je vous embrasse Laetitia.
Merci.
Au revoir.
Bonne soirée.
Bonne soirée, au revoir.
Au revoir Olivier.